2.0.
Changé, moi, là.
Tente comme un agneau.
Je te regarde aussi, c'est vrai que t'as changé. Hein?
J'essaie d'y aller par étapes, t'sais.
Boulevard.
Je pense que toute la famille, tous les fans de Slapshot sont en deuil aujourd'hui parce que Tim McCracken, l'acteur Paul D'Amato, qui jouait Dr. Hook dans Slapshot, est malheureusement décédé. C'est ce qu'on a appris dans les dernières heures. Il luttait contre la paralysie supranucléaire progressive. Donc, on dit que c'est une maladie cérébrale assez rare. Donc, il nous a quittés, un de moins, qui faisait partie de la belle gang de Slapshot. Que de beaux souvenirs d'enfance quand j'écoutais ça. Des fois, c'était deux puis trois fois pendant la soirée.
D'enfance,
oui.
Mon ami.
Et on connaissait les paroles par cœur. Tu sais, les gros segments.
T'as sûrement écouté ça adulte aussi.
Adulte,
je sais pas
oui.
Ce qui vous rassemble là-dedans, les hommes, mais il y a pas un homme dans ma vie ami qu'on fait. Ben, mettons, pas mon père.
Ouais.
C'est le seul.
Je pense que c'est l'esprit de gang.
Il y a quelque chose, ouais. Hein? Ouais, le sentiment d'appartenance,
parce
les jokes, un film léger.
Il y avait un film, je pense, qui avait été fait par c'était-tu par Disney? Je pense que oui. Les Mighty Ducks.
Oui.
Fait, tu sais, il y avait un esprit de gang, puis mes gars, ils écoutent régulièrement ce film-là.
Les Mighty Ducks.
Tu sais, il y a d'autres films aussi de football qui impliquent des enfants. Là, un coach d'une équipe de la NFL qui se fait suspendre, qui arrive dans une ville où son gars habite, qui joue au football. Une entente avec son père qui n'est pas vraiment évidente. Puis le gars, le coach de la NFL qui est suspendu, devient coach de cette équipe, de cette jeune équipe de football-là. Puis la gang se tient, puis ils travaillent fort ensemble, puis ils réussissent à aller beaucoup plus loin que si le coach les avait pas aidés. Puis mes gars regardent ça. Puis je pense que c'est l'esprit de gang. Puis c'est ce que Slapshot nous ramenait aussi. Puis la traduction québécoise, c'est juste hallucinante. Là. Ouais, c'est... Dites pas ça devant vos mères, là, mais votre père, ça se peut qu'il rie. Hey, notre ami Nicolas Gagnon, oui. De la Fédération canadienne des contribuables est là. Salut, Nicolas.
Salut, tout le monde, ça va bien?
Ouais, toi, t'as-tu écouté ça, Slapshot? Mais ça, c'est pas ton genre. T'es tout le temps poli, tout le temps gentil, t'es...
Non, mais en fait, parce que je connais très bien Slapshot, inquiète-toi pas là-dessus. Ouais. Le problème, c'est que je pourrais pas te citer sans nom, mettons. Là. J'allais entendre le segment dont tu parlais de Paul D'Amato, là, qui jouait Tim McCracken. Je suis juste tombé sur ces citations en ligne, juste pour essayer d'en trouver une que je pourrais dire à la radio, puis il n'y en a aucune que je peux dire.
Ah.
même en français, ça serait pas mieux. Fait que, mais oui, c'est un film marquant, puis c'est vrai que la traduction en français du Québec, c'était parfait. Là.
Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul puis la boisson. C'est incroyable. Hey, parlant de choses incroyables, Amazouf, ça se peut qu'Amazouf, on mette finalement la Switch à off.
Ben oui, quelle surprise! Je veux dire, moi qui pensais que le panier bleu allait rester là pour l'éternité, comme la toile du Québec, qu'on sait qui est un autre grand projet qui a effectivement fait long feu.
Oui.
Mais c'est en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont tirer la plug, mais quand Fitzgibbon dit ça quasiment à mi-mot en pleine entrevue, on peut se douter que ça s'en vient bientôt. Là. Bon, je dirais pas bon débarras, mais c'est pas comme s'il y avait ben du monde qui allait se rendre compte que le panier bleu allait disparaître non plus. Là.
Mais au départ, c'était une page qui parlait des produits québécois qui fonctionnaient pas vraiment. Après ça, le gouvernement a décidé d'investir là-dedans. Peut-être que c'est venu avant ou après, mais je sais que la femme de Dubé a été impliquée dans l'aventure puisqu'elle était pour le panier bleu. Après ça, c'est devenu un site transactionnel. Je sais pas si tu te souviens de cette fameuse journée, le 31 mars 2023, où un journaliste de Radio-Canada a répertorié les produits qui étaient disponibles sur le panier bleu?
Oui, puis on a appris que la plupart des produits, du moins, il y avait beaucoup de produits là-dedans qui n'étaient juste pas du Québec, là, si je me trompe
Écoute,
pas.
Écoute, sur les 100 000 produits qui étaient disponibles sur le panier bleu, qui était un site Internet qu'on a fait pour vendre des produits québécois, ben sur les 100 000 produits, il y en avait 600 qui étaient bel et bien québécois.
Conçus au Québec.
Sinon, les autres, c'était des entreprises du Québec qui vendaient des produits qui, eux, provenaient de la Chine.
On s'entend que c'est pas surprenant. Déjà qu'en plus, le site web il avait été très mal fait en premier lieu. Au début, ils voulaient que ce soit une organisation à but non lucratif. Donc, ils voulaient pas que ce soit transactionnel parce que le but, c'était pas de faire de l'argent avec ça. C'était de faire un genre de bottin téléphonique virtuel. Puis on se rappelle que c'était dans le contexte de la pandémie. Ça avait été annoncé en disant, ben regardez, on va encourager l'économie locale. La meilleure manière de le faire, c'est d'acheter en ligne. Sauf qu'ils ont donné un bottin téléphonique, un site web style bottin téléphonique où vous ne pouvez pas faire de transaction. Puis là, ils se sont rendus compte que finalement, ça ne servait pas à grand-chose parce qu'au final, les gens pouvaient juste aller voir des produits. Puis ensuite, ben, au final, ils pouvaient faire la même chose que ce qu'ils pouvaient faire sur Google sans avoir besoin de se rendre sur le panier bleu. Fait que disons que le site web, initialement, il ne valait pas grand-chose. On a mis quand même pas loin de 4,4 millions de dollars de l'argent des contribuables dans le projet quand c'était une organisation à but non lucratif. Puis là, ben, on a décidé de faire, ben, ça ne fonctionne pas. On devrait peut-être se tourner de bord puis rendre ça transactionnel. T'sais, ça leur a pris comme 2 ans avant de réaliser à quel point c'était pas utile d'avoir un bracelet téléphonique en ligne. Fait que là, on s'est retrouvé avec une entreprise qui était finalement financée par plusieurs acteurs. Donc, l'actionnariat du panier bleu, quand ça a été lancé en 2022 sous forme de site transactionnel, c'était 22 millions de dollars qui a été divisé entre Investissement Québec, qui avait mis à lui seul 12 millions là-dedans. On avait Fonds de solidarité du Québec qui a mis un 5 millions, puis le reste, c'est des acteurs privés comme Mouvement Desjardins ou Lightspeed.
Lightspeed, donc, qui est une patente qu'on a investi aussi beaucoup là-dedans. Là. Mais
ben exact. Au final, si Lightspeed avait de l'argent, ça venait des contribuables d'une certaine manière.
Ouais. Nick, tu es à la Fédération canadienne des contribuables, mais je sais que je pense que tu as déjà été en affaires, hein, à moins que je me trompe. Là.
Je le suis encore.
Tu l'es encore.
Ouais, c'est ça.
OK, parfait. Toi, tu l'as encore. Il y a énormément d'entrepreneurs, hommes, femmes, qui nous écoutent présentement. Moi, je fais... j'ai une autre carrière aussi, puis j'aide des entreprises à essayer de progresser. Et un site Internet transactionnel à 22 millions de dollars, je n'ai jamais vu ça de ma vie.
Ben non, ça se peut pas. Puis en plus, je regardais ça tantôt en me disant, écoutons, comment on a pu utiliser 22 millions de dollars pour un site transactionnel? Parce qu'au final, quand tu regardes les sites de e-commerce qui sont moindrement bien développés puis qui ont quand même une bonne structure, qui ont une certaine complexité pour offrir des produits variés pour des entreprises style PME en expansion, on parle d'environ 6 000, 10 000 $, peut-être 15 000 gros max. On veut vraiment de quoi de complexe. J'ai rarement vu quelque chose qui allait plus loin que ça. Bien sûr, ça dépend des entreprises. Plus l'entreprise, elle offre beaucoup de services, de produits, puis une variété de... commander d'offres ou de, par exemple, elle le fait dans plusieurs langues ou peu importe. Tout ça va peut-être amener de la complexité, des coûts supplémentaires. Mais rappelons une chose, le panier bleu, ça s'adresse qu'au Québec. Ça ne représente que des entreprises québécoises et c'est offert juste en français. Donc, la complexité, il n'y en avait pas beaucoup pour mettre ça en place. Puis, il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient, en fait. Les principales personnes à se plaindre du panier bleu, c'est pas les gens comme vous et moi qui ont payé pour, d'une certaine manière, avec leurs taxes et leurs impôts pour mettre en place un site web à 22 millions. C'était aussi les gens qui utilisaient la plateforme pour vendre leurs produits. On se rappelle d'un certain reportage qui avait été fait je pense que c'était au début de l'année dernière, à la fin de l'année 2023. On avait, entre autres, là, des entreprises qui nous disaient que même pas 1% de leurs ventes en ligne passaient par le panier bleu. C'était pas un site qui a été fait pour être transactionnel au départ. Puis il y a même des professeurs d'université qui ont dit, ben écoutez, le site, il faut carrément le refaire de fond en comble parce que son modèle de base, il fonctionne pas avec la mission qu'on essaie de lui donner présentement. Mais personne n'a écouté. On pensait vraiment que mettre 22 millions de dollars dans un site web, ça allait compétitionner avec Amazon, qui soudainement ben, a décidé de mettre l'étiquette produits du Québec sur les produits qui sont vendus au Québec sur la plateforme d'Amazon. Donc au final, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire avec le panier bleu. Donc, on s'attend à ce que la plug soit tirée sous peu, mais c'est de réaliser à quel point, finalement, ça a été vraiment une blague de A à Z, ce site-là. Puis, ben, on va avoir perdu de l'argent là-dedans comme si c'était un simple pari pour une start-up qui n'aura pas levé. Mais et où la reddition de compte? Y a-t-il quelqu'un qui va perdre sa job pour avoir fait perdre notre argent puis notre temps avec une application aussi basique? Malheureusement, je pense, on ne sait pas à veille d'arriver ça non plus.
C'est encore la semaine dernière, 3 à 4 000 $ pour un site Internet transactionnel. Et puis là, on parle d'un gros site Internet transactionnel, c'est dans les vêtements, mais 3 à 4 000 $ ça n'a rien à voir avec 22 millions de $. Est-ce que la Fédération canadienne des contribuables va poser des questions à savoir où est allé ces millions de $-là, qui est, du moins pour ce qui est d'Investissement Québec ou encore de la FTQ?
Oui, ben j'avais déjà demandé, j'ai envoyé des demandes d'accès à l'information en fait à la mi-janvier. Fait que je trouve ça vraiment particulier que soudainement on apprenne que le panier bleu soit sur le point de sauter. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est à quoi ressemble la rémunération à l'interne. Parce que si on est capable de mettre en place un site web qui a coûté aussi cher, qu'on a injecté autant d'argent, moi je veux la liste de toutes les personnes qui ont travaillé, ou du moins tous les postes qui étaient occupés. Puis les salaires qui viennent avec ça, puis à savoir s'il y avait aussi des primes de rendement, comme c'est le cas dans d'autres sociétés d'État qui sont apparemment très performantes au Québec. Mais tu sais, moi, ce que je veux savoir, puis je pense que les contribuables aimeraient savoir comment est-ce que l'argent qui a été injecté là-dedans, d'une certaine manière, ça a rapporté quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices? son cyclone, mais est-ce que finalement ça a été, ben, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un détournement de fonds publics, mais est-ce que finalement ça a juste servi à payer des salaires puis à offrir des jobs à du monde, puis au final on tire la plug puis comme si rien n'était? Ben, je pense que les gens aimeraient savoir. Pour l'instant, on va attendre les retours, les demandes d'accès à l'information, mais comme je dis souvent avec ces genres de procédures-là, don't hold your breath, parce qu'ils prennent bien leur temps avec ça.
Legault qui fait une conférence de presse dimanche en sachant très bien qu'ils sont en négociation actuellement avec les infirmiers et infirmières du Québec et qui dit ben, « les caisses sont vides, déficit à venir, on a dû donner beaucoup d'argent en ciblant les enseignants, bien entendu. » Il n'a pas ciblé tous les millions de dollars qu'on a donnés pour une équipe de hockey qui va venir quelques jours à Québec. Il n'a pas ciblé le stade olympique où on va investir un milliard de dollars encore pour rien. Il n'a pas ciblé toutes les grosses dépenses, là, les augmentations de salaire à l'Assemblée nationale. Il n'a pas ciblé ça. C'était les professeurs qui coûtent cher. Puis là, ben, pour ce qui est des infirmières, réglez vite parce qu'il ne restera plus d'argent. Puis nous autres, on s'en va en déficit pour ce qui des prochaines années?
Bien, c'est tellement irresponsable et lâche, je veux dire, parce que tu sais, il blâme tout le monde sauf lui-même. Je veux dire, la principale raison pour laquelle il va avoir des aussi grosses concessions pour les syndicats, c'est parce que le gouvernement Legault s'est couché devant les syndicats. C'est pas parce que, c'est pas les professeurs et les infirmières qui contrôlent le budget du Québec, c'est le gouvernement Legault. Fait que, tu sais, s'il voulait éviter qu'on fasse un déficit, il avait à faire le ménage plus tôt. De ça, il l'a jamais fait. Il s'est fait élire sur cette prémisse-là en 2018 en disant qu'il allait réduire le nombre de fonctionnaires, puis qu'il allait maintenir la question de l'équilibre budgétaire comme étant une priorité. Puis ça, il répétait même quand il était à l'opposition. Il l'a répété très longtemps, même quand il était ministre au PQ. Ça faisait partie de ses doctrines. Là. L'équilibre budgétaire, c'est important, puis la saine gestion des finances publiques. Puis quand il est arrivé au pouvoir en 2018, je vais le rappeler, il y avait le plus gros déficit de l'histoire du Québec. C'est pas rien. Le plus gros surplus budgétaire, pardon, de l'histoire du Québec. Donc, on était vraiment à des années-lumière d'un gouvernement présentement qui va nous donner des plus gros déficits que prévu, et ça pour probablement la prochaine décennie. Parce que là, le plan, comme c'était prévu à date, on était supposé avoir un déficit de 3 milliards pour 2024-2025. Le prochain budget était déficitaire, on le savait déjà, mais on s'attendait à ce que, tranquillement, à chaque année, on réduise ça d'un milliard, et que selon le plan de M. Legault, et de M. Girard, ben, en 2027-2028, on aurait le retour à l'équilibre budgétaire. Puis ça, on nous faisait encore miroiter que c'était possible jusqu'à il y a environ un mois. Puis là, soudainement, on nous dit « Ah, ben, je suis désolé, ça va être un plus gros déficit que prévu, puis c'est de la faute du fait qu'on a donné plus d'argent aux professeurs puis aux infirmières. » Alors que, comme tu l'as mentionné au début, Yannick, là, je veux dire, ils n'ont pas eu de problème. Il y a littéralement deux semaines à annoncer 870 millions pour le stade olympique. Il n'y a jamais eu un seul signal d'alarme qui a été fait par le gouvernement pour dire, ben, OK, là, guys, on fait cette concession-là pour les syndicats, mettons, là, mais pour le reste, on va devoir couper. Donc oui, on va donner des meilleurs salaires, mais on va réduire le nombre de personnes qui travaillent dans la structure québécoise. Il n'y a eu rien de ça. Et ce qui est dommage, parce que là, on nous annonce un plus gros déficit que prévu. Ça laisse très peu de marge de manœuvre à une baisse d'impôts, à un allègement fiscal que les contribuables aimeraient bien avoir au prochain budget. Donc, c'est comme tu nous indiquais déjà que peu importe ce qui arrive, n'ayez pas trop d'attente parce que le gouvernement va livrer surtout des chiffres dans le rouge, donc ne demandez pas trop. Donc, c'est quoi le message que ça envoie? Bien, ça envoie le message que c'est un gouvernement qui a perdu le contrôle de ses finances publiques. Il vient de concéder 11 milliards de plus à l'ensemble des fonctionnaires pour les prochaines années au Québec. Et puis, ben, il leur fait porter le blanc en même temps pour dire que c'est à cause d'eux qu'un déficit. En tout cas, ça tient pas du tout la route. Puis, ben là, on va espérer que le prochain budget soit pas trop dans le rouge parce que c'est pas mal la seule attente qu'on peut avoir pour l'instant.
J'ai l'impression qu'il s'inspire du gouvernement fédéral actuellement. T'sais, on repousse tout à plus tard, on donne autant de services, on dépense sans nécessairement compter, puis ce sera aux générations à venir de payer la dette canadienne. Ben, la CAQ semble être rendue là. Puis effectivement, ils ont perdu totalement le contrôle, puis ils savent plus quoi faire pour plaire au monde. Ça va être extrêmement difficile pour eux autres de revenir de l'arrière puis essayer de rattraper le Parti québécois.
Bien, éventuellement, oui. Il va falloir quand même se dire que présentement, la CAQ n'est pas dans une bonne situation parce que on le sait avec les sondages, mais aussi au niveau de la gestion des finances publiques, comment est-ce qu'ils vont faire pour tenir la route jusqu'en 2026 pour les prochaines élections, parce que on s'entend que la véritable logique devrait s'appliquer dans les circonstances, c'est de réduire les dépenses du gouvernement, de faire le ménage. Ils n'ont pas le choix. On est rendu là. Quand on a un déficit aussi élevé qui fait que ça croît, ben il faut donner un coup de roue à quelque part. Puis ça, c'est tout sauf populaire. Donc, est-ce que François Legault va le faire? parce qu'il va juste perdre encore plus de points dans les sondages s'il décide de faire la bonne chose. Et mon point étant le suivant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le ménage dans la fonction publique québécoise dès la fin de la pandémie?
Écoute, c'est une promesse électorale de diminuer le nombre de fonctionnaires, puis ils en ont ajouté au-delà de 50 000.
Bien, c'est ça, mais tu sais, en 2022, il y avait quand même de la marge de manœuvre. C'était le gouvernement le plus populaire de l'histoire du Québec encore à ce moment-là, puis c'était juste avant le déclenchement des élections où est-ce qu'il a quand même, il a quand même été chercher 90 sièges. Pourquoi il n'a pas profité de cette popularité-là, du fait que la pandémie était terminée, pour réduire les effectifs au niveau pré-pandémique? Ça aurait permis de réduire pour loin de 25 000 employés aux nouveaux équivalents temps complet qui ajoutaient dans la structure. Puis, OK, il aurait été un petit peu moins populaire en faisant ça, en coupant des postes en partant dans une année électorale. Il aurait probablement gagné moins de sièges, mais aujourd'hui, on aurait des finances publiques qui seraient moins dans le rouge, puis il y aurait moins de choix difficiles à faire. Mais là, il reste 2 ans. On a un équilibre budgétaire qui est repoussé au calendrier grec et il n'y a plus aucune marge de manœuvre d'aucune manière pour donner des allègements supplémentaires aux contribuables. Donc, François Legault, c'est lui-même coincé dans un mur et il essaie de blâmer les syndicats pour ses propres décisions. Ouais. Donc, je vous laisse penser à ça, mais au final, ça augure pas bien.
La Fédération canadienne des contribuables, est-ce que vous vous réjouissez pour Montréal? Vous allez peut-être avoir un couvert pour votre bol de toilette.
Moi, si j'étais quelqu'un de Québec, je ne me moquerais pas du bol de toilette de Montréal quand j'en ai un mot aussi à Québec. Mais je pense que le vôtre a coûté un petit peu moins cher que ce qu'on va avoir.
Nous autres, c'était 400 millions, mais j'ai la solution. On pourrait peut-être dépiner le centre Vidéotron et mettre ça sur le top du stade olympique.
Mais ça serait pas pire, mais on se trouve avec deux stades, l'un par-dessus l'autre, avec aucune équipe sportive dedans.
Ah, ça serait parfait.
Je suis pas sûr que ça serait très winner, mais... Ceci étant dit, ce que je suis content de voir, c'est qu'il n'y a plus juste la Fédération canadienne des contribuables qui demande à ce qu'on ralentisse là, les travaux pour le stade olympique. Puis disons qu'on demande plus de transparence avant d'aller de l'avant. Il y a aussi le Parti libéral du Québec qui a fait une étonnante sortie hier. C'est assez surprenant parce qu'on pensait que tous les partis qui sont situés sur l'île de Montréal voient le stade olympique comme une sorte d'église qu'il ne faut jamais toucher. Mais là, on a eu Marois Risky, qui est la députée de Saint-Laurent, qui a osé dire que oui, il faudrait effectivement mettre les travaux sur pause tant sur temps qu'on n'a pas tous les chiffres. Donc, peut-être avec un peu de chance, si on fait monter la pression assez, peut-être qu'on va économiser 870 millions aux contribuables québécois. Mais une chose à la fois, mais c'est le fun de voir qu'il y a des gains qui se font tranquillement, mais sûrement.
Ce que je trouve beau, c'est qu'ils nous disent 870, mais ça va peut-être être plus 1 milliard. Puis je regardais des experts qui se prononçaient sur la chose en fin de semaine, qui mentionnaient qu'une fois que le toit va être refait au coût d'un milliard, là, ça prend de l'aménagement à l'intérieur. Il y a d'autres coûts qui vont être obligés de sortir des poches du gouvernement en place. Là.
Oui, mais tu sais, il ne faut pas oublier une chose, Yannick. Durant la conférence de presse, notre chère ministre du Tourisme, Caroline Poix, nous l'a dit. Là. Un nouveau toit avec un bel anneau de verre, ça va doubler les retombées économiques du stade olympique de même. On va passer de 68 millions par année à 150 millions. On va tripler les revenus du stade. Puis il y a 1 million de visiteurs qui vont venir de plus par année juste pour voir le nouvel anneau de verre. Donc, inquiète-toi pas s'il y a plus de dépenses parce que tout le monde sait qu'avec un coup de baguette magique, on a un nouveau toit, puis tout va bien, puis les retombées explosent. Même s'il n'y a toujours aucune équipe sportive qui va être dans ce stade-là, apparemment, un nouveau toit, c'est symbole de prospérité économique. En tout cas, il y a probablement juste au Québec qu'on arrive à faire un tel calcul. J'ai hâte de voir c'est quoi les projections parce que ça fait partie des demandes d'accès à l'information qu'on a demandé au ministère du Tourisme et qu'on n'a toujours pas reçu d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air que la religion à l'Assemblée nationale, c'est de croire qu'un stade, un nouveau toit de stade, ça amène des retombées économiques significatives.
Puis le 2 milliards pour le démolir, là, ne croyez jamais à ça. Là. C'est des chiffres qui sont arrivés de nulle part. Là.
Tu peux construire des nouveaux stades. Tu peux construire 2 nouveaux stades pour le chiffre que ça coûterait pour détruire celui de Montréal. Puis il n'y a aucune excuse qui a été fournie jusqu'à maintenant qui justifie le 2 milliards. Tous les autres stades qui ont été construits en Amérique du Nord, qui ont été détruits en Amérique du Nord, c'est des fractions à peine. On parle de 20-25 millions, gros maximum par stade qui a été détruit. Donc, de penser que ça coûterait 2 milliards à Montréal parce que c'est un stade qui est situé en plein centre de la ville puis parce qu'il y a un métro en dessous, c'est vraiment des foutaises. Donc, tu sais, s'ils sont capables d'inventer un chiffre comme ça, de sortir de nulle part pour nous justifier, ils vont dire ben, « on peut pas détruire le stade, donc on est mieux de justifier d'investir 870 millions, parce que sinon, si on le détruit, ça va coûter trop cher. » Mais s'ils sont capables d'inventer des chiffres par rapport à la destruction du stade, qu'est-ce qu'ils inventent d'autre par rapport aux projections puis aux retombées économiques qu'ils projettent avec le nouveau toit? Donc, ou est-ce que le coût qu'on va payer pour le toit, est-ce que c'est vraiment 870 millions ou 1,5 milliard en bout de ligne? Tout ça n'a pas été divulgué. Fait que tant sur longtemps qu'on n'aura pas les chiffres devant nous, on a toutes les raisons de douter de ce qu'ils disent là-dessus. Là.
Nicolas Gagnon, merci d'être là, toi et ta gang à la Fédération canadienne des contribuables. Vous êtes très important, vous travaillez extrêmement fort. Merci!
C'est toujours un plaisir. Salut tout le monde.
Salut, bye-bye. Ma joke du couvert de bol de toilette sur le stade olympique, c'est vrai que ça a l'air de ça de loin.
Il me semble que j'avais pas vu ça en caricature.
Ça, c'était
pas
le centre Vidéotron.
Pour mettre le centre Vidéotron
les
sur
deux.
Le dessus. Oui,
j'avais vu une caricature.
Les deux grosses bols de toilette de la province.
Ouais, mais au moins, nous autres, on a le couvert.
Oui, c'est ça.
Ouais, oui, pour 400 millions.
On les met ensemble. Go!
On s'amuse dans les dépenses folles de notre gouvernement. The Black Keys, Gold on the Ceiling sur les ondes de Boulevard. Restez là.